France Culture.
Et les midis reprennent le voyage, faut qu'on voie du paysage. À 13h, la comédienne Camille Chamou sera mon invitée. Mais tout de suite, place à Marie Sorbier pour le Point Culture. Bonjour.
Bonjour Marie. Le Musée de l'Homme à Paris fête en ce début du mois d'octobre les 10 ans de sa réouverture. Plus qu'un musée d'ethnologie, il propose une lecture interdisciplinaire de l'humain à travers trois grandes questions. Qui sommes-nous ? D'où venons-nous et où allons-nous? Tout un programme. La directrice Aurélie Clémenté-Ruiz accompagne l'anniversaire d'un essai où elle s'interroge sur la place du musée dans la société et dans l'avenir. Et c'est le dossier du Point Culture du jour. Aurélie Clémenté-Ruiz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice du Musée de l'Homme à Paris. Vous venez de faire paraître aux éditions de l'Aube un ouvrage pour un musée engagé. Alors ce terme, engagé, on l'entend beaucoup, on le voit concrètement pas toujours très bien. Vous avez choisi à dessein de le mettre en exergue. Qu'est-ce qu'il signifie très concrètement pour vous? Comment un musée peut-il être engagé?
Eh bien, pour moi, un musée engagé, c'est un musée qui participe au débat de société. L'idée, c'est justement de dire que le musée n'est pas hors du monde, qu'il présente des collections, qu'il est là pour transmettre une histoire de l'art, mais aussi pour participer à tous les questionnements, finalement, qui peuvent agiter la société contemporaine. Et c'est en ça que j'emploie ce terme de « engagé ».
Dans votre prologue, justement, vous opposez, le mot est peut-être fort, mais en tout cas vous mettez face à face le musée comme lieu de contemplation, ce qui était le cas avant, et vous l'opposez donc à un musée aujourd'hui plutôt lieu de débat, lieu de vie. Est-ce que ce que vous cherchez finalement, Aurélie Clémenté-Ruiz, c'est la participation plus active du public ?
Oui, aussi du public, mais aussi de ceux qui font les musées, en fait. C'est-à-dire que dans nos pratiques professionnelles culturelles, il faut qu'on laisse la place aussi à un dialogue qui peut nourrir les contenus du musée, un dialogue avec nos visiteurs, pour finalement aussi les impliquer un peu plus. Passer d'une posture parfois un peu passive de visite d'un musée à une posture un peu plus active. Et c'est ça, je pense, qui va permettre aussi à nos musées de continuer à exister.
Concrètement, c'est quoi une participation plus active dans un musée ?
Alors, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être organiser des débats, ça peut être proposer des outils de visite qui vont permettre de poser des questions aux visiteurs, d'interagir avec eux, d'aller à la rencontre aussi des professionnels de musée. Je vous donne un exemple très concret. Au Musée de l'Homme, on organise par exemple des tables rondes participatives, agitez vos idées une fois par mois sur un sujet d'actualité. Des experts viennent parler d'une thématique et ils sont pendant une heure et demie en rebond avec la salle sur le sujet qu'ils abordent. Voilà.
Alors, vous êtes la directrice du Musée de l'Homme. Ce terme même de Musée de l'Homme ouvre tout un tas de questions. Quels sont les enjeux contemporains d'un musée qui s'appelle un Musée de l'Homme ?
Ah, il y en a beaucoup. Alors, c'est une question qu'on me pose souvent, effectivement. Le Musée de l'Homme, alors on célèbre ce week-end les 10 ans de sa réouverture, mais en fait, c'est un musée qui a été inauguré en 1938. Et effectivement, cette appellation de « homme » avec un grand H, qui signifie bien toute l'humanité, aujourd'hui pose question. Et effectivement, on peut se demander ce qu'est un musée de l'homme aujourd'hui, au XXIe siècle. Moi, je préfère le terme « humanité », qu'on utilise beaucoup plus aujourd'hui dans le musée, qui est un terme beaucoup plus inclusif et qui en fait définit tout simplement un musée de l'humain. C'est un musée anthropologique pour mieux comprendre qui nous sommes et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui.
Alors justement sur ces questions ethnologiques, anthropologiques, même de société, de la place de l'homme dans la société, il y a beaucoup de débats en ce moment, notamment je pense un débat sur les restitutions mais aussi sur l'exposition des restes humains. Est-ce que ce sont des questions que vous vous posez au sein du musée et quels sont les débuts de réponse que vous pouvez apporter?
Alors le musée est au cœur de ces débats puisque nous avons d'importantes collections d'anthropologie biologique, c'est-à-dire de restes humains, et nous allons aborder directement ce sujet dans notre prochaine exposition qui ouvrira le 19 novembre qui sera consacré aux momies. Alors les momies, c'est un thème qui fascine, il se trouve qu'on en a beaucoup dans nos collections et par ce biais-là, eh bien, on va proposer une exposition qui va poser des questions éthiques sur les questions de pourquoi a-t-on ces collections finalement aujourd'hui dans nos musées? Qu'est-ce qu'on en fait avec? Pourquoi elles sont là? Doit-on continuer à les présenter ou pas? Et cette exposition Momie va essayer en tout cas d'aborder ces sujets-là.
Sur la question des restitutions et même peut-être plus généralement sur les questions de décolonisation, quelle est la position aujourd'hui du Musée de l'Homme?
Alors, c'est des sujets qu'on traite, puisque le Musée de l'Homme a commencé son existence en pleine période coloniale. Il a été nourri par des expéditions scientifiques, notamment dans des territoires colonisés. Donc, les premières collections du Musée de l'Homme viennent notamment de là. Et puis, il y a eu un changement radical, puisque lorsque le Musée de l'Homme a fermé, il a fermé pendant 6 ans pour travaux, parce que les collections d'ethnologie sont parties. Elles sont parties de l'autre côté de la Seine, au Musée du Quai Branly. Et il a fallu réinventer un Musée de l'Homme plutôt centré sur l'humain, donc un musée anthropologique qui a réouvert en 2015. Mais on est l'héritier de cette histoire-là. Et donc, bien évidemment, dans ce nouveau Musée de l'Homme repensé en 2015, eh bien, on a réfléchi à ce passé colonial et on aborde ces sujets-là à travers les collections qu'on a encore de cette époque-là pour essayer d'apporter plusieurs regards, en fait, sur cette histoire et de montrer, finalement, quels apports on a et quelle vision on a aujourd'hui sur cette histoire de nos musées également.
Au-delà même de la réflexion scientifique et artistique autour de ces collections, est-ce que vous sentez que le public se pose également des questions, que ce soit d'ailleurs quand vous exposez des restes humains ou pour toutes ces questions décoloniales, est-ce que vous sentez la pression de la société sur ces sujets-là?
En tout cas, une pression peut-être pas, en tout cas des questionnements, ça c'est certain. Et c'est des sujets, encore une fois, qu'on aborde généralement dans nos conférences et nos tables rondes. On a eu par exemple, au mois de mai dernier, une table ronde autour de la question de l'appropriation culturelle et on voit que c'est des sujets qui passionnent nos visiteurs.
Alors, vous l'avez évoqué, le musée donc a réouvert en 2015, c'est-à-dire que vous fêtez la réouverture, donc vous fêtez les 10 ans de la réouverture. Ce sera ce week-end, peut-être pour finir cet entretien, Aurélie Clément-Théruis. Qu'est-ce qui va se passer ce week-end au Musée de l'Homme?
Eh bien, un grand week-end festif où on vous propose à la fois de venir rencontrer nos chercheurs, puisque la spécificité du Musée de l'Homme, c'est 150 chercheurs qui sont dans nos murs. Et donc là, eh bien, ils vont sortir de leur labo pour être dans le musée, à la rencontre de nos visiteurs. On a préparé des rencontres avec eux, mais aussi des visites thématiques totalement inédites, une sur le genre, sujet d'actualité encore une fois, une autre sur l'identité, notamment avec nos généticiens, et puis un programme familial, puisqu'on a proposé un Ariol Show. Alors ceux qui connaissent ce petit personnage de BD créé par Bayard, eh bien, on a un parcours de visite avec Ariol dans le musée, et puis un spectacle musical associé qui vient compléter l'ouverture d'un nouveau lieu au musée, un espace famille autour de la préhistoire, un lieu, un espace rien que pour eux et qui sera inauguré ce week-end à partir du samedi 4 octobre.
Eh bien, merci beaucoup. On mettra tout le programme de ce week-end festif sur la page internet du Point Culture. Merci beaucoup, Aurélie Clément-Théruis.
Merci, Marie.
Et dans le reste de l'actualité, Marie, on a appris cette semaine la disparition du musicien Denis Raisin-d'Adre.
Âgé de 69 ans, Denis Raisin-d'Adre a été retrouvé mort au début de la semaine à son domicile de Tours. La présence de drogue a conduit la procureure de la République à l'ouverture d'une enquête pour homicide, ainsi qu'à une autopsie. Flûtiste baroque, il était l'un des plus grands spécialistes de la musique de la Renaissance. Il aura publié au cours de sa carrière une trentaine d'albums autour de ce répertoire méconnu de la musique française et italienne.
Les CCN, les centres chorégraphiques nationaux, remettent en question leur manque de parité.
Oui, l'association des centres chorégraphiques nationaux vient de publier un communiqué dans lequel elle dénonce le manque de femmes à la tête de ces institutions culturelles. Sur les 19 CCN en France, seulement 2 sont dirigées par des femmes seules, alors que 11 le sont par des hommes seuls. Les 6 autres sont des binômes ou des collectifs. Alors que cette situation est jugée problématique par l'association, la direction de 5 CCN a été ou sera renouvelée là dans les prochains mois. Problème, aucun d'eux ne sera dirigé par une femme. À titre de comparaison, le réseau des scènes nationales et des centres dramatiques nationaux ont, eux, presque atteint la parité concernant le nombre de directrices et de directeurs.
Et pour finir, Marie, on a appris la reconduction de Thiago Rodriguez à la tête du Festival d'Avignon.
Oui, alors que la dernière édition a connu une fréquentation record, hein, supérieure à 98%, le metteur en scène portugais a été renouvelé dans ses fonctions de directeur du festival pour un deuxième mandat de 4 ans. À chaque édition qu'il a présidé, le dramaturge a décidé de mettre à l'honneur une langue. Après l'anglais, l'espagnol et l'arabe, l'édition 2026 sera consacrée à la langue coréenne.
Merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles.
À demain.
À demain, en attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.